Bienvenue au service francophone vers l'Afrique. Tous les matins, du lundi au vendredi à 5h30, temps universel. Retrouvez-nous aussi sur Internet, Facebook et sur votre portable. Vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Bonjour à tous le monde. Aujourd'hui, édition du jeudi 31 juillet 2014 en direct de Washington. Bagassi Koura et Anne Albertson. Bonjour Anne.
Bonjour Bagassi, bonjour à tous.
Au sommaire de cette édition, épidémie d'Ebola suite aux agressions des agents de santé. Le Libéria va désormais fournir une escorte policière à ses agents de santé. Ouverture aujourd'hui à Dakar du procès tant attendu de Karim Ouad, le fils de l'ancien président, est accusé d'enrichissement illicite. Crise israélo-palestinienne. Plus d'une centaine de Palestiniens ont été tués hier dans la bande de Gaza, ravagée par des frappes israéliennes. Réaction ce matin d'un Palestinien.
Nous voulons la paix. Nous voulons l'enlever de blocus. Nous voulons une occupation israélienne. Nous voulons un État palestinien indépendant. Nous voulons la liberté.
Barack Obama sera-t-il poursuivi en justice pour n'avoir pas respecté la Constitution ? Hier, la Chambre des représentants a adopté une résolution allant dans ce sens. Et vous aurez en fin d'émission l'actualité sportive et la musique. Pour l'instant, le journal.
Le Libéria va désormais fournir une escorte policière à ses agents de santé, dont certains ont été agressés pendant qu'ils traitaient ou enterraient des victimes de l'épidémie de fièvre Ebola qui s'aggrave. Idriss Fall.
Cette décision des autorités libériennes fait partie d'une série de mesures annoncées hier, alors que les pays d'Afrique de l'Ouest tentent désespérément de contenir l'épidémie qui s'est étendue à 4 pays et a tué près de 700 personnes. Selon la ministre de la Justice, Christiana Ta, les agents sanitaires ont été lapidés dans diverses communautés pendant qu'ils essayaient de faire leur travail. Dans le comté septentrional de Lofa, les habitants ont carrément mis le feu à une ambulance transportant des agents qui allaient aider à enterrer des victimes en les accusant de propager le virus. Beaucoup de familles refusent de coopérer avec les autorités et traitent chez elles les malades plutôt que de les amener dans les centres d'isolement des hôpitaux. Et d'autres ignorent simplement les mesures de précaution recommandées quand on enterre les victimes.
L'organisation d'aide américaine Peace Corps a annoncé qu'elle retirait ses bénévoles du Nigeria, de Sierra Leone et de la Guinée en raison de l'épidémie du virus Ebola. L'agence américaine précise dans un communiqué que ce repli est provisoire et qu'elle déterminera ultérieurement quand ses bénévoles pourront retourner dans ces pays où travaillent au total 340 volontaires.
Au Nigeria, les autorités affirment qu'un kamikaze a tué au moins 6 personnes et blessé 6 autres dans la ville de Kano. Selon les autorités, cet attentat à l'université polytechnique de Kano est la 4e attaque menée dans la ville par une femme en moins d'une semaine.
Et ouverture aujourd'hui à Dakar du procès tant attendu de Karim Ouad, fils de l'ex-président sénégalais Abdoulaye Ouad. Plus de détails avec vous, Issa Kaba.
Le ministre sénégalais de la Justice, Sidiki Kaba, a déclaré hier que le dossier des accusations d'enrichissement illicite à l'encontre de Karim Ouad comprend près de 40 000 pages. Karim Ouad est en détention préventive depuis avril 2013. Il est accusé d'avoir illégalement acquis 178 millions d'euros par le biais de montages financiers complexes du temps où il était conseiller puis ministre de son père, qui a dirigé le Sénégal pendant 12 ans, de 2000 à 2012. Selon l'accusation, cette somme se trouverait aujourd'hui dans des paradis fiscaux, dont Monaco et Singapour. Mais d'après les avocats de Karim Ouad, près de la moitié de cet argent correspond à un compte à Singapour dont il est d'ores et déjà prouvé qu'il n'appartient pas à leurs clients.
En Libye, le nouveau Parlement, issu des élections du 25 juin, a décidé de se réunir d'urgence samedi à Tobrouk, dans l'est du pays. La Libye, un pays qui sombre dans le chaos, Jean-Roger Bion.
Le Parlement libyen devait initialement prendre fonction le 4 août à Benghazi, dans l'est du pays. Le député Aboubakr Bira a annoncé à l'AFP qu'une réunion d'urgence se tiendra à Tobrouk, jusque-là épargnée par les violences. Le nouveau Parlement doit se réunir dans l'espoir de former un nouveau gouvernement. Les combats qui font rage depuis plus de 2 semaines à Tripoli et à Benghazi ont semé le doute sur les capacités de la nouvelle assemblée. À Benghazi, après plusieurs jours de combats, les djihadistes ont pris le contrôle de la principale base militaire. À Tripoli, selon des sources médicales, une infirmière philippine a été violée par un groupe armé qui l'avait enlevée. Les Philippines avaient appelé leurs ressortissants estimés à 13 000 à quitter la Libye. Plusieurs autres pays ont évacué leurs ressortissants. Ces dernières 24 heures, une cinquantaine de Français et de Britanniques ont été évacués par bateau.
au Maroc dans son discours hier pour marquer le 15e anniversaire de son accession au trône. Le roi Mohamed VI a pointé du doigt les disparités sociales dans son pays. Félix Yepassis Zembrou.
Tout en évoquant les progrès réalisés, Mohamed VI a déploré une mauvaise répartition des richesses et sollicité l'élaboration d'une étude pour mesurer la valeur globale du Maroc entre 1999 et fin 2013, afin de proposer des solutions visant à réduire les inégalités. Si le Maroc a connu des avancées tangibles, la réalité confirme que cette richesse ne profite pas à tous les citoyens, a poursuivi le souverain. Plus de 3 ans après la révolte du printemps arabe, il a par ailleurs jugé que nul ne pouvait nier l'évolution démocratique de son pays, citant en exemple la constitution de 2011, élaborée après de nombreuses manifestations organisées par le mouvement du 20 février. Ce mouvement réclamait des réformes, mais a baissé en vigueur.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Plus d'une centaine de Palestiniens ont été tués hier dans la bande de Gaza, ravagée par les frappes israéliennes. Les États-Unis et l'ONU ont condamné le pilonnage avant l'aube de l'école de l'Agence de l'ONU pour l'aide aux réfugiés palestiniens à Jabalia. Au moins 16 Palestiniens y ont péri. La Maison-Blanche déplore que les milliers de Palestiniens qui ont abandonné leur maison ne soient pas en sécurité dans les refuges mis en place par les Nations Unies. Chérubin Dorsil.
Les États-Unis condamnent le bombardement d'une école de l'Agence de l'ONU pour les réfugiés palestiniens à Gaza, a indiqué Bernadette Mehan, porte-parole du Conseil de sécurité nationale du président Barack Obama. Elle a ajouté que cette violence démontre la nécessité d'arriver à un cessez-le-feu dès que possible. Au moins 16 Palestiniens, dont des enfants qui s'étaient réfugiés dans cette école, ont été tués mercredi à l'aube par des bombardements israéliens dans le nord de la bande de Gaza. Le secrétaire général de l'ONU, Ban Ki-moon, a qualifié ce bombardement d'injustifiable, car selon lui, la localisation exacte de cette école élémentaire avait été communiquée 17 fois aux autorités militaires israéliennes quelques heures avant cette attaque. Au moins 108 Palestiniens ont été tués rien que ce mercredi, ce qui porte le bilan à 1348 morts et plus de 7300 blessés. Par ailleurs, 56 soldats israéliens ont été tués depuis le lancement de l'offensive le 8 juillet, dont 3 hier.
Ajoutons que les États-Unis ont confirmé hier avoir réapprovisionné Israël en munitions, quelques heures après avoir fermement condamné l'attaque de l'école de l'ONU à Gaza.
12 personnes, dont un enfant, ont été tuées lors d'un bombardement de l'armée syrienne hier à Douma, une ville détenue par les rebelles près de Damas. C'est ce que rapporte l'Observatoire syrien des droits de l'homme basé à Londres. Douma, un bastion rebelle au nord-est de Damas, est assiégé par l'armée syrienne depuis plus d'une année. Selon un photographe de l'agence France Presse présent à Douma, le bombardement a atteint plusieurs parties de la ville, dont un marché animé.
Peut-être la réponse du berger à la bergère. La Russie a interdit les importations de produits frais de la Pologne mercredi, au lendemain de nouvelles sanctions de l'Union européenne et des États-Unis contre Moscou pour son rôle dans la crise en Ukraine. Henri Francisque.
Cette mesure russe intervient 2 jours seulement après que la Pologne eut demandé de nouvelles sanctions occidentales pour punir le Kremlin pour avoir fourni aux rebelles ukrainiens des missiles qui ont abattu un avion de ligne malaisien le 17 juillet. Moscou a également averti qu'elle pourrait étendre l'interdiction de l'importation à l'ensemble des 28 pays membres de l'Union européenne. Hier, le ministère russe des Affaires étrangères a qualifié de « destructrice et à courte vue » les sanctions des États-Unis et de l'Union européenne visant les secteurs de l'énergie, de la défense, de la technologie et des finances de la Russie.
Ici aux États-Unis, la Chambre des représentants a voté hier pour un projet de loi réformant le département des affaires des anciens combattants touchés par des scandales. Le projet de loi de 16 milliards de dollars a été adopté par 420 voix pour et 5 contre. Le projet va maintenant au Sénat où il devrait passer sans encombre. Les changements visent à rendre plus facile et plus rapide l'obtention d'un traitement médical pour les anciens combattants.
Et puis toujours la Chambre des représentants, dominée par le Parti républicain, qui a autorisé le lancement de poursuites contre le président Barack Obama pour abus de pouvoir. La Chambre a adopté une résolution autorisant le président de la Chambre, John Boehner, à engager des poursuites judiciaires contre le président pour avoir enfreint ses responsabilités constitutionnelles en n'ayant pas appliqué fidèlement la loi de réforme du système de santé de 2010. Tous les démocrates ont voté contre cette procédure inhabituelle.
Voilà, c'est tout pour le journal. Il est 5h40 en temps universel, 1h40 ici à Washington, au micro Bagassi Koura. État d'alerte en Afrique de l'Ouest concernant le virus Ebola, le Nigeria ayant enregistré son premier cas de décès dû à la maladie. Ses voisins, dont le Bénin, s'activent à mettre en place un mécanisme de prévention et de prise en charge des cas qui surviendraient. De Cotonou, le reportage de Peggy Ludovic Dagba.
La résurgence du virus Ebola en Afrique de l'Ouest fait craindre à l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, et aux autorités en charge de la santé des populations de la région une contamination à grande échelle, vu la vitesse avec laquelle la maladie se propage. Le Nigeria voisin du Bénin, sur plusieurs centaines de kilomètres de frontières, vient d'enregistrer son premier décès, ce qui ravive la vigilance du ministère béninois de la santé. Lucien Toko, directeur national adjoint de la santé, nous parle ici du système de protection mis en place par le Bénin pour faire face à la situation.
La riposte ne change pas au niveau de la sous-région parce que c'est une riposte sous-régionale recommandée par l'OMS. Et cette riposte, c'est d'abord la surveillance. La surveillance des cas au niveau de nos frontières, ports et aéroports, pour que tous les cas, ces régions contaminées, ces régions où on a déjà découvert le cas, toutes les personnes provenant de ces régions, nous sommes en train, au niveau du ministère de la Santé, nous avons au niveau de ces postes-là, nous sommes en train d'enregistrer toutes ces personnes et on fait la surveillance, c'est-à-dire que nous avons tous leurs contacts et on les contacte régulièrement pour voir s'ils ne commencent pas à avoir des signes pour que nous puissions réagir aussitôt. Au niveau du Sénat, nous allons mettre en place un centre d'accueil des cas éventuels et avec tout le dispositif qu'il faut. Nous avons tout le matériel par rapport à cela.
Maladie très contagieuse, le virus Ebola se transmet facilement de l'animal à l'homme. Lucien Torkov.
La transmission de cette maladie, à ce jour, nous avons identifié les animaux de la brousse, notamment le singe, la chauve-souris, l'antilope, les rats, l'hérisson, l'agouti. Ce sont des animaux qui portent ce virus et puis qui peuvent le transmettre à l'homme. Et l'homme malade le transmet aussi facilement à travers ses sécrétions, toutes sécrétions biologiques, à savoir les selles, l'urine, le sperme, la salive, même la sueur.
Ainsi, il faut éviter tout contact avec les animaux de brousse. Et dès qu'un décès suspect intervient dans un environnement, en informer aussitôt le médecin chef de la localité. Telles sont les recommandations du directeur national adjoint de la santé publique du Bénin à l'endroit des populations pour éviter la propagation rapide du virus. Peggy Ludovic Dagba, Cotonou, pour La Voix de l'Amérique.
On reste toujours en Afrique de l'Ouest, cette fois-ci au Mali. L'arrestation de Yoro Ouldodaha, ancien chef de guerre du Moudiao, le mouvement pour l'unicité et le djihad en Afrique de l'Ouest, son arrestation par la force française, suscite donc beaucoup de réactions au sein des populations et les avis restent très partagés. Si les uns sont contents de cette arrestation, les autres se posent la question de savoir pourquoi seulement maintenant. Le point avec notre correspondant sur place, Boubacar Touré.
Yoro Ouldodaha est très connu des populations de Gao qu'il a traumatisées au moment de l'occupation. Voici le témoignage d'un jeune de Gao qui a préféré garder l'anonymat.
Les jours qu'il a rentré dans le Moudiao, il est venu ici, il a agressé ici. Il dit que pourquoi on fume des cigarettes. Moi, je lui dis que chaque personne a son manière de faire ce qu'il veut. Elle m'a dit que s'il n'est pas éteint les cigarettes, il va me foutre là-dedans tout de suite. Ils sont nombreux, ils sont beaucoup de gens dans les véhicules. Moi, j'ai éteint ma cigarette. Mes amis aussi, qui sont à côté de moi, ils ont éteint la cigarette. Ils sont partis à des carrés comme ça. Ils ont trouvé l'élément de nos grains. Encore, ils ont les frappé, ils ont les cassé de l'air à radio. Ils ont dit qu'il n'a qu'à dégager, il n'a qu'à disparaître d'ici. Il a frappé nos amis, il nous a frappé notre papa, il nous a frappé notre mère. Tout ça là, moi aujourd'hui, ils ont arrêté Yoro. Moi, je suis très content, vraiment.
Yoro est plus qu'un ennemi pour le Mali, plus qu'un ennemi pour la population gawaz. Il a tiré sur la population, il a fatigué la population. Tout le monde le sait. Même le jour, comme on appelle le Moudiao, est rentré à la radio à Dar pour prendre Malik. Il était parmi les gens. Il a tiré sur la population, ici on le regardait. C'est lui qui dit qu'il va protéger ces derniers-là. Lui-même, on doit le prendre comme un ennemi pour la population. Qu'il soit jugé, il n'est pas lié au Mali. C'est pour une bite bien déterminée pour lui-même. Pourquoi il est lié au Mali? Parce que nous, on le sait. Il ne lutte pas pour le Mali.
Pour les autres, l'arrestation de Yoro Ouldodaha, deux mois mois après qu'il soit revenu à Gao est une volonté affichée de la France pour protéger le MNLA à qui il fait la guerre depuis des semaines.
Yoro Ouldahi, on le connaît très bien ici au Moujao. Et on était tous étonnés quand on l'a vu, ce garçon, revenir, circuler librement à Gao sans être inquiété. Il est en train de combattre justement le MNLA dans ses velléités de progresser vers la ville de Gao, on a compris. Et chaque fois, c'est lui qui convoitait les blessés de guerre pour les amener à l'hôpital de Gao. Et on est étonné, deux mois plus tard, aujourd'hui, qu'on apprenne que les Français ont arrêté Yoro. Mais ce n'est pas le moment d'arrêter Yoro, il fallait le faire bien avant. Aujourd'hui, il est en mission positive pour nous, population de Gao, parce qu'il s'agit justement d'éloigner le danger de la ville de Gao. Et aujourd'hui, nous comprenons qu'on l'a arrêté juste parce qu'il est en train de combattre le MNLA. Il n'est pas le seul terroriste qu'on a connu. Hein. Tout le monde sait qu'il y a Dakidal, tout le monde sait qu'Agaoussa Oussa et Akidal et bien d'autres qui ont terrorisé les populations de Gao et de Kidal et Tombouctou pendant l'occupation et qui circulent librement à Kidal au vu et au su de tout le monde de Serval de l'aménagement.
Le chef de guerre du MAA dissident proche de Bamako est entre les mains de la France attendant le sort qui lui sera réservé. Gao, Boubacar Touré pour La Voix de l'Amérique.
La Voix de l'Amérique, en direct de Washington, une fenêtre sur le monde.
Au moins 108 Palestiniens ont été tués rien que la journée d'hier, mercredi, ce qui porte le bilan à 1348 morts et plus de 7300 blessés. Côté israélien, 56 soldats ont été tués depuis le lancement de l'offensive le 8 juillet pour tenter de faire cesser les attaques à la roquette du Hamas. Mais que veulent exactement les Palestiniens? Idriss Fall a rejoint à Ramallah Mahmoud Labadi. Il est directeur des relations extérieures du Fatah.
Nous voulons la paix. Nous voulons l'enlever de blocus. Nous voulons enlever l'occupation israélienne. Nous voulons un État palestinien indépendant. Nous voulons la liberté.
Est-ce que vous pensez que tout ceci, c'est réalisable? D'autant que c'est le Likoud de la droite israélienne que vous avez en face.
Non. Avec la faiblesse américaine, la complicité avec M. Netanyahou, il n'y aura pas, malheureusement.
Mais donc, ce sont les populations civiles qui vont payer le prix?
Malheureusement, oui. Les enfants, les civils, les femmes, les hommes âgés, pas les combattants, parce que les combattants se cachent bien, ils savent se protéger, mais les civils, malheureusement, ils seront bombardés dans leurs foyers, dans les écoles. Même l'école de l'ONU était bombardée sans merci. Et les Israéliens continuent. Et on se demande d'où viennent ces armes des Israéliens. Ça vient tous des États-Unis, de l'Amérique.
Et les roquettes du Hamas, alors, ça vient d'où?
Elles ont été achetées du marché libre, d'origine peut-être américaine, coréenne. Ce sont les producteurs des armes dans le monde, comme les Européens, les Américains, ce sont les Chinois, ce sont les producteurs. Nous, les Palestiniens, nous ne sommes pas des producteurs, nous sommes des consommateurs.
Quelle solution? Parce qu'on ne peut pas continuer la guerre éternellement.
Écoutez, les Palestiniens souffrent depuis une cinquantaine, soixantaine d'années. Les Israéliens ne veulent pas la paix. Ils veulent la capitulation totale du peuple palestinien et de la leadership palestinienne. Et voilà, ça ne marche pas parce que ça peut continuer pendant deux ans, trois ans et après il y aura une nouvelle guerre. Deux ans, trois ans, une nouvelle confrontation. Ça va bien aux Israéliens, ils sont contents parce qu'ils sont les plus forts, ils ont les armes les plus sophistiquées. Alors ils se sentent bien, ils sont couverts avec les veto américains, ils se sentent bien protégés. Alors ils peuvent mener une guerre sans merci et sans fin contre un peuple qui est faible mais demande sa liberté. Et les Israéliens ne veulent pas céder, ils ne veulent pas reconnaître les droits nationaux du peuple palestinien, ils veulent continuer leur occupation et leur colonisation et leur oppression du peuple palestinien. Qui a fait échouer l'initiative de M. Kerry? Ce sont les Israéliens, ce n'est pas les Palestiniens qui ont fait échouer cette initiative de paix.
Voilà, c'était Mahmoud Labadi, directeur des relations extérieures du Fatah. Agriculture à présent, selon des experts agricoles, les petits agriculteurs en Afrique peuvent jouer un rôle important pour mettre fin à l'insécurité alimentaire s'ils sont intégrés dans la chaîne des valeurs. Morgane Guiriec.
Les pays d'Afrique subsaharienne continuent d'importer plus de nourriture chaque année qu'ils n'en exportent. Près de 60% des terres arables non cultivées au monde se trouvent en Afrique, mais beaucoup d'Africains n'ont pas assez à manger. Pour les experts, il est clair que les petits agriculteurs pourraient jouer un rôle dans l'amélioration de la sécurité alimentaire, stimuler la croissance et réduire la pauvreté ainsi que le chômage. Adebayo Ulokoshi, directeur de l'Institut africain des Nations Unies pour le développement économique et la planification.
The smallholder continues to be a key player.
Le petit exploitant reste un acteur important à travers le continent africain. Il constitue le fondement de la population agricole. Donc il est clair que si la majorité de la population est paysanne, et par définition, aucune stratégie de sécurité alimentaire ne peut être vraiment efficace si elle ne les intègre pas pleinement. Toujours selon M. Ulokoshi, les petits producteurs agricoles donneraient donc à l'Afrique la possibilité de se nourrir et ils pourraient également aider les pays africains à devenir le grenier du monde. Mais comme le nombre de grandes fermes industrielles augmente, exporter s'avère pratiquement impossible pour la plupart des petits exploitants. Édouard Diata est un cultivateur de riz de la région de Casamance Sud, au Sénégal.
Avant d'exporter, il faut être de gros producteurs. Donc nous produisons pour nous nourrir seulement, pour l'autosuffisance alimentaire. Maintenant, certainement, si on essaie d'exporter, il y a d'autres personnes qui seront intéressées par le riz de la Casamance. Et pourquoi pas? Mais pour exporter, non, parce que la quantité ne nous permet pas.
Le coordonnateur de la conférence des ministres de l'agriculture de l'Afrique de l'Ouest, Baba Dioum, dit que des agriculteurs comme Diata sont confrontés à quatre principaux obstacles quand il s'agit de l'accès à un marché plus vaste.
D'abord, ils n'ont pas une bonne organisation. Ils n'ont pas les capacités techniques pour digérer les innovations technologiques qu'il faut pour répondre au marché. Ils n'ont pas les capacités financières, ils n'ont pas les capacités commerciales à intégrer cela.
Toujours selon Baba Dioum, beaucoup de petits agriculteurs dépendent aussi de la météo. S'il ne pleut pas, les récoltes sont mauvaises et de nombreux agriculteurs hésitent à investir dans un secteur qui pourrait leur faire perdre de l'argent. Car avant d'investir, ils ont besoin de savoir à qui ils vont vendre et avoir des garanties de prix. Juliana Diata cultive du riz et des arachides sur une petite parcelle à Mossor, un village à 45 km environ à l'ouest de Ziguinchor.
Ici, on a la machine qui pile le riz, mais pour avoir des machines à cultiver, ici, je n'ai jamais vu. C'est les gens qui cultivent avec le kayando, les garçons et les femmes européennes.
Il faudrait donner aux petits agriculteurs l'accès au crédit ou microcrédit, disent les experts, pour les aider à accroître leur production. De meilleures infrastructures agricoles, comme les installations de stockage, des systèmes d'irrigation et réseaux routiers, et un meilleur accès à l'information sur les marchés sont également nécessaires.
Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur La Voix de l'Amérique et ce matin j'accueille Issiaka Ba. Bonjour Issiaka.
Bonjour Bagassi.
En football, la finale de la 54e Coupe du Mali oppose aujourd'hui les 11 créateurs au Djoliba AC à Bamako.
La rencontre sera officiée par des arbitres croates selon la Fédération malienne de football. Cette initiative entre dans le cadre d'un partenariat effectif depuis le mois de juin entre les fédérations des deux pays. Ce n'est pas la première fois que la finale est arbitrée par des Européens. Celle de 2011 l'avait été par des Espagnols.
En football toujours, transfert, le portier des Fenech signe aux États-Unis.
Philadelphia Union en MLS, le championnat de football aux États-Unis, a annoncé officiellement hier la signature de Raïs Mboli, le gardien des Fenech. Les détails du transfert du portier international algérien âgé de 28 ans n'ont pas été divulgués.
Toujours dans le chapitre transfert, l'attaquant international belge d'origine congolaise Romelu Lukaku s'est engagé pour 5 ans avec Everton en première ligue anglaise.
Oui, il avait été prêté la saison dernière par Chelsea. Le montant du transfert s'élève à 35,4 millions d'euros, un record pour cette formation basée à Liverpool. L'attaquant belge de 21 ans a terminé meilleur buteur d'Everton la saison dernière avec 16 buts en 33 matchs de Première Ligue et son club a terminé 5e du dernier championnat.
Enfin, en cyclisme.
Un Américain de 75 ans a battu 3 records du monde cycliste sur piste dans sa catégorie d'âge en 2 jours au Mexique, dont celui de l'heure qu'il a porté mardi à 38 km, 805 mètres. Jim Turner, ancien champion des États-Unis du duathlon en 1996, avait déjà battu lundi, sur la même piste, les records du 2 km en 2 minutes 48 secondes 483 et du 200 mètres en 13 secondes 889 en améliorant ses propres performances respectives, 2 minutes 51 secondes 420 et 14 secondes 001, réussies 2 semaines auparavant au Colorado.
Après le sport, on passe à la musique avec Roger Muntu. Bonjour Roger.
Bonjour Bagassi. Célèbre pour ses tubes So Yesterday, Wake Up ou Beat of My Heart, Hilary Duff est de retour après une pause musicale. Écoutons Anywhere But Here.
When I'm in a crowd, on an island by myself. Silent all too loud, wishing I was somewhere else. And I can't believe you hit me fast and hard when you turn to me and say, never change the way you are. Trying to catch your eye, things will never look the same. Now I can't deny, you're the moth and I'm the flame. There I go again, I should walk before I run.
Alors Roger, Hilary Duff a pris une pause de 7 ans et maintenant de retour sur la scène musicale. Cela doit être une très bonne nouvelle pour les fans.
Une très bonne nouvelle, Bagassi. Durant ses 7 ans, la chanteuse a mis sa carrière de popstar en stand-by pour se focaliser sur sa vie de mère, tout en développant des projets humanitaires et les apparitions à la télévision et au cinéma.
Hilary Duff dans Anyway But Here. Merci, Roger.
De rien, Bagassi. Salutations à tous nos auditeurs, à Bobo du Lasso.
Roger Muntu, que vous retrouvez chaque jour dans RM Show à partir de 20h, temps universel. Donc pour cette édition, merci à Anne Alberson qui a assuré la mise en onde. Un grand merci à toute la rédaction de La Voix de l'Amérique. Merci Kouro au micro. Passez une excellente journée.